Africa Radio, l'invité, Nadir Djennad.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue congolais, coordonnateur de la DIPOL, la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo, et vous intervenez depuis Kinshasa. En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Bujakera est désormais libre après avoir passé plusieurs mois de prison. Il a annoncé hier ne pas faire appel de sa condamnation, rappelant qu'il avait été condamné ce lundi à 6 mois de prison, puis libéré ce mardi. Tout d'abord, comment cette affaire a été perçue par les Congolais ?
Eh bien, les Congolais étaient, je dirais, d'abord choqués parce que l'affaire était liée à l'assassinat, plutôt à la mort de Chérubin Okende, un député de l'opposition, même ministre des Sports, une personnalité connue. Et donc, toute l'émotion autour de sa fin tragique et a donc également choqué parce qu'il y a également Stanis qui était connu à la fois pour son travail avec l'actualité.cd, mais également comme correspondant de RFI. C'est une voix très connue et dont la crédibilité également est très, très reconnue. Et donc, ces deux événements ont créé beaucoup d'émotions et c'était vraiment une vraie onde de choc pour la population, d'autant plus que ça intervenait dans un contexte préélectoral qui était déjà assez marqué par beaucoup de violence.
Est-ce que vous pensez que la liberté de la presse en République démocratique du Congo est menacée ou alors sérieusement remise en cause ?
Je crois qu'il y a aujourd'hui des risques de régression de l'espace, y compris donc des médias aussi, parce que depuis la période préélectorale, on a senti une volonté de serrer un peu la vis avec beaucoup, je dirais, de mainmise de plus en plus active des renseignements militaires, des services de renseignements sur des questions de politique. Cette intrusion des questions sécuritaires dans la politique réduit de plus en plus l'espace public d'expression et donc les médias ne seront pas également épargnés parce que de plus en plus il y a une forme d'omerta sur des questions à la fois des questions sécuritaires, à la question de la guerre, qu'on ne peut pas s'y prononcer sous peine de se trouver traîner devant la justice. Et donc il y a aujourd'hui une sorte de chape qui commence petit à petit à se poser sur la liberté d'expression et donc à réduire l'espace public, y compris les médias.
Ce que vous dites, c'est que il est difficile pour les journalistes en RDC d'enquêter sur des sujets sensibles liés à la défense, liés à la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo ou des affaires de gestion publique.
La gouvernance sécuritaire au Congo est une question qui est peu démocratisée et qui est peu redevable en termes d'accountability, en termes de rendre compte au niveau de l'opinion, même au niveau des politiques. On a encore cette perception que les affaires de sécurité restent des affaires des militaires et qu'ils ont trop peu de comptes à rendre. C'est la question de l'état des sièges, la question liées aux finances de l'armée. Ce sont des questions qui sont encore sous omerta et les quelques journalistes qui s'y aventurent s'exposent parfois à des réponses sanglantes du genre atteinte à la sûreté de l'État. Parfois, on peut obtenir des trahisons. Nous sommes dans une période sensible avec la reprise des combats avec le M23 et donc toute interprétation des questions militaires peuvent vous amener demain à vous retrouver devant les renseignements militaires, soit pour des propagations des faux bruits, soit pour haute trahison. Et avec cette nouvelle menace qu'est la peine de mort, beaucoup plus de pression pour non suffisant des questions-là.
Justement, hein, vous l'avez évoqué, hein, on évoque le retour de la peine de mort dans le pays. Est-ce qu'il y a une inquiétude de la part des journalistes, mais aussi d'une manière générale de la société civile ?
Oui, mais beaucoup d'inquiétudes parce que déjà il y a un grand flou dans l'interprétation de cette problématique-là. On parle de traître à la nation, on parle de collision avec l'agresseur, on parle des phénomènes Kuluna. Quand on connaît les récriminations que tout le monde porte sur notre justice, il y a des raisons de s'inquiéter que ça serve peut-être à des fins politiques. Et donc, il y a une inquiétude réelle que cet élément apporte un nouveau palier de dissuasion et, comme je dis, une nouvelle chape dans le débat. De plus en plus, les gens vont se réserver pour aborder des questions qui peuvent les exposer. Donc, on aura de moins en moins des gens qui vont s'exprimer sur des questions qui appellent nécessairement un déclic et à plus de redevabilité, notamment de la gouvernance sécuritaire.
Alors, concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, on annonce une rencontre possible entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Alors, qu'en est-il exactement ? Est-ce que le gouvernement s'est exprimé sur ce sujet ?
Le gouvernement ne s'exprime pas du tout. Les Congolais qui ont été informés par les déclarations d'affaires étrangères de l'Angola et après sa rencontre dans les pays voisins, parce que durant toute la campagne électorale, le président qui a été réélu a tenu un discours B de tout rejet de dialogue avec le Rwanda, de refus de rencontre avec Kigali et même d'ouvrir les hostilités avec de manière franche. Et donc ce revirement qui peut-être la rencontre entre les deux personnalités peut refroidir d'ailleurs qui a été chauffé pendant très longtemps et pourrait être perçu comme un retour de la position présidentielle. Donc à ce stade, si ça ne communique pas assez sur la question, on sait que c'est une dynamique régionale qui est poussée par les États-Unis d'Amérique et par l'Angola et que malgré lui, il ne sera pas s'opposer à cette dynamique régionale-là. Et donc il communique moins et peut-être attendra voir les événements pour communiquer après.
Vous pensez qu'une rencontre avec Paul Kagame serait très mal perçue par la population et par une partie de la classe politique ?
Ce sera perçu comme d'abord un revirement de sa propre parole, parce que durant la campagne, le président a dit qu'il ne rencontrerait Kagame qu'au ciel, ceux qui veulent bien y croire. Mais ce sera un vrai revirement par rapport à toute sa stratégie qui était assez blégiste, qui était négative et qui était construite autour de l'ennemi qui est Kagame. Et donc, 2 mois après pratiquement l'élection, nous sommes à 3 mois des élections, parce que nous sommes au mois de mars, après, ce serait perçu comme un vrai tournement et ça pourra, d'opinion intérieure, en termes de réception du président. Après, ça ne répond pas fondamentalement à ce que tout le monde connaît, à savoir que le Rwanda était l'agresseur et que le Congo est la victime et qu'on ne règle pas le problème en mettant la victime et l'agresseur sous le même pied. Ça forme dans l'opinion intérieure ces sentiments que beaucoup de Congolais partagent d'une sorte de duplicité de la communauté nationale qui est assez ferme quand il faut condamner la Russie et très molle quand il faut condamner le Rwanda et que le Congo serait en quelque sorte la victime d'une sorte de complot international. Il y a tout un courant complotiste qui se développe de plus en plus dans l'opinion intérieure d'un complot international contre le Congo. Malheureusement, les genres d'initiatives diplomatiques que l'on prend confortent une certaine opinion qui pense qu'il y a un complot pour que le Congo soit balkanisé.
Christian Moleka, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Kinshasa.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes politologue congolais, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, la DIPOL.
Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad.